Il est 18h et vous êtes bien à l'écoute d'Europe 1.
Je demande à AstraZeneca de nous fournir des informations complètes et de respecter ses obligations contractuelles et morales.
Le torchon brûle ce soir entre l'Europe et AstraZeneca. Le laboratoire ne sera pas en mesure de fournir la totalité des doses promises aux 27 et donc à la France, mais un quart seulement.
Branle-bas de combat à Bruxelles qui demande donc des comptes et veut vérifier les explications du laboratoire.
Le couvre-feu à 18h ne suffit pas à stopper l'avancée du virus. C'est le porte-parole du gouvernement qui le dit aujourd'hui. Du coup, il va sans doute falloir frapper plus fort. On verra quelles sont les options sur la table.
Quand les arnaqueurs font feu de tout bois dans le Pas-de-Calais, des personnes âgées ont été démarchées pour une vaccination à domicile dans le but de les cambrioler.
Au sommaire également, les expertises de la dernière chance dans l'affaire Grégory Villemain.
Oui, 36 ans après les faits, peut-être l'espoir de démasquer enfin le ou les assassins de l'enfant.
Et puis terre en vue, ou presque, pour les marins du Vendée Globe, Charlie Dalin n'est plus qu'à quelques encablures des Sables d'Olonne. La Bourse de Paris a terminé ce soir en nette baisse, moins 1,16% à 5 459 points.
Et puis la météo, attention, toujours des vigilances en cours ce soir. Anissa, bonsoir.
Bonsoir Julien, oui, nous avons des vigilances avalanches et pluie-inondations dans les Alpes. Demain, le temps reste très maussade et très humide sur quasiment tout le pays. Je vous dis tout à la fin du journal.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Et c'est un retard qui va avoir des conséquences sur la campagne de vaccination en France. On savait depuis vendredi dernier que le laboratoire pharmaceutique AstraZeneca ne serait pas en mesure de livrer à l'Europe la totalité des doses promises. Eh bien, la Commission européenne précise aujourd'hui qu'elle s'attend à ne recevoir que 25% de ce qui était prévu au premier trimestre.
Isabelle Horry, vous êtes la correspondante d'Europe 1 à Bruxelles. L'Europe est donc furieuse ce soir.
Ah oui, furieuse de ce retard et des explications vagues qui lui sont données depuis quelques jours, et furieuse de lire dans la presse des déclarations du patron d'AstraZeneca. Selon lui, ces délais de production, c'est parce que l'Europe a signé son contrat trop tard, 3 mois après le Royaume-Uni. Et donc, il honore d'abord la commande britannique en lui réservant en priorité les vaccins fabriqués par ses 2 usines outre-Manche. La commissaire européenne à la santé s'étrangle. Elle rappelle que les 27 ont financé la compagnie en amont. 336 millions d'euros d'investissement tout de même. Stella Kyriakides pointe qu'AstraZeneca a signé avec l'Union européenne un contrat pour 400 millions de doses et qu'il comporte des engagements de livraison indépendamment de ses promesses à d'autres pays.
Dans notre contrat, rien ne dit qu'un autre pays, le Royaume-Uni par exemple, a priorité sur nous parce qu'il aurait signé son contrat avant. Notre contrat prévoit des objectifs trimestre par trimestre. Il n'y a pas de clause de priorité.
Côté français, Bercy confirme ce soir n'attendre que 26% des livraisons prévues au premier trimestre, un peu plus de 4,5 millions de doses seulement. Mais le gouvernement se veut quand même rassurant, cela ne devrait pas remettre en cause l'objectif de vacciner dans les temps les 15 millions de Français prioritaires grâce à la montée en puissance des autres vaccins, Pfizer et Moderna.
Eh bien, merci beaucoup Isabelle Horry, en direct de Bruxelles.
Oui, on reparlera des vaccins, vous l'avez compris, avec notre invité exceptionnel, 19h15. Grand entretien à suivre ce soir. Soyez au rendez-vous, on a plein de questions à lui poser. Olivier Beaugillot, le patron de Sanofi France.
En tout cas, un éventuel retard dans la campagne de vaccination est un facteur que l'exécutif va devoir prendre en compte. Lui qui hésite déjà sur la méthode à adopter face à des chiffres de contamination qui grimpent inexorablement.
À l'issue d'un nouveau conseil de défense, à l'Élysée ce matin, le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, a donc confirmé une information très importante. Le couvre-feu tel qu'il est appliqué actuellement ne suffit plus pour contrer l'épidémie.
Le couvre-feu à 18h a une efficacité aujourd'hui relative. Nous avons des données qui permettent de montrer qu'il freine dans une certaine mesure la circulation du virus, mais à ce stade, il ne freine pas suffisamment la circulation du virus pour être considéré comme pleinement efficace. Sans attendre, nous anticipons et nous avons travaillé ce matin sur différents scénarios qui peuvent être envisagés sur la base de la situation actuelle.
Bonsoir Louis Draganel.
Bonsoir Isabelle.
Alors vu que le couvre-feu manifestement ne freine pas, on vient de l'entendre, la progression du virus, que le variant britannique progresse à grands pas et qu'on risque peut-être de prendre du retard dans la campagne de vaccination à cause d'AstraZeneca, quel est le scénario envisagé? Qu'est-ce qui est sur la table aujourd'hui?
Alors c'est vrai qu'on a tous envie de le savoir, comme avant chaque confinement. Le gouvernement évoque plusieurs scénarios possibles, comme on vient de l'entendre. Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement, a donné une indication quand même ce matin après le Conseil des ministres, en expliquant que les hypothèses vont du maintien du cadre actuel jusqu'au confinement très serré, avant de préciser quelques secondes plus tard que le statu quo paraît peu probable. En clair, pour bien comprendre, il n'est donc pas question d'alléger les restrictions. Autre certitude, si le président a demandé plus de temps pour trancher, c'est parce que la décision est difficile à prendre. D'ailleurs, ce n'est pas un détail, le Premier ministre Jean Castex doit recevoir demain et après-demain les représentants des partis politiques et des syndicats. Souvenez-vous, il s'était passé exactement la même chose avant le premier et le second confinement.
Mais qu'est-ce qu'il faut entendre exactement quand Gabriel Attal parle de confinement très serré ?
Alors, selon plusieurs proches de l'exécutif, cela pourrait se traduire par un confinement comme celui que nous avons vécu en mars-avril dernier, c'est-à-dire avec fermeture des crèches, écoles, collèges et lycées, mais aussi impossibilité de circuler sans attestation ou encore d'aller chez le coiffeur. Si ce scénario est retenu par le gouvernement, eh bien Isabelle, on n'a plus qu'à espérer qu'il fasse beau.
Agnel du service politique d'Europe 1, et on nous souhaite effectivement le soleil et du beau temps. Et comme si la situation n'était pas assez compliquée, voilà que l'on découvre que certains en profitent et profitent de la campagne de vaccination pour tenter d'arnaquer des personnes âgées.
Oui, ça se passe à Oudin, dans le Pas-de-Calais, où vous vous trouvez, Lionel Gougelot. Des retraités ont été démarchés, on leur proposait des rendez-vous à domicile.
Oui, effectivement, Isabelle Levent, la maire d'Oudin, a recueilli plusieurs témoignages de personnes âgées ciblées par ces tentatives de cambriolage par ruse. À chaque fois, un coup de téléphone avec, au bout du fil, un interlocuteur en apparence très sérieux et officiel.
La première réaction des personnes, c'est « Ah ben, on est content, on va être vacciné ». Eh ben oui. Et puis la deuxième réaction, ça a été « Mais c'est quand même bizarre ». Et donc, les personnes ont eu le bon réflexe d'appeler soit leur commune, soit leur médecin pour leur demander des renseignements. Et on dit tout de suite « Non, non, c'est pas possible, faut pas faire comme ça ».
Des escrocs qui essayent donc de profiter de la faiblesse et de la fragilité de certains habitants en attente de vaccin.
Accepter une vaccination à domicile, je pense que c'est aussi de l'espoir. Mais il y a aussi cette idée de reprendre ses petits-enfants dans les bras, et ça je l'entends beaucoup. Et les escrocs, malheureusement, surfent sur cette détresse. Et l'idée de prendre rendez-vous chez les personnes âgées pour faire le vaccin, oui, c'est dangereux.
Alors l'alerte a été largement diffusée dans la commune et aux alentours. Et Estelle, une commerçante, s'inquiète pour sa maman retraitée.
Je vais la prévenir dès ce soir. Comme elle est en âge de se faire vacciner, si on lui mes monts et merveilles et c'est une arnaque, je vais bien la prévenir. Surtout pas répondre affirmativement si elle a un appel téléphonique.
Pour l'heure, aucune victime n'a été officiellement recensée, mais pour la maire de la commune, cela n'empêche pas d'être particulièrement vigilant.
Lionel Gougelot, reportage correspondant d'Europe 1 dans le Nord. Et puis c'est toujours une conséquence du Covid, on l'a appris tout à l'heure. Le festival de Cannes est reporté au mois de juillet, du 6 au 17 juillet.
Europe 1, Julien Bugier.
Restez avec nous, 18h07 dans quelques secondes. Plus de 36 ans après l'assassinat du petit Grégory Villemain, la science pourrait permettre d'élucider enfin l'affaire.
Et puis on sera au Sable d'Olonne, arrivée imminente pour Charlie Dalin.
Europe Soir, le 18-20. Julien Bugier.
Avec la suite du journal, et donc on parle de ce nouvel espoir de connaître enfin un jour la vérité dans l'affaire Grégory Villemain grâce aux avancées de la science.
Oui, de nouvelles expertises génétiques vont avoir lieu. Arthur Henbaché, elles étaient réclamées par les parents du petit garçon.
Jean-Marie Villemain est très satisfait. Le père du petit Grégory l'a dit ce midi à ses avocats, satisfait de la validation donc par la justice de presque toutes les demandes d'expertise que lui et sa femme Christine ont formulées. Les parents Villemain sont défendus par maître François Saint-Pierre.
Vous savez, en matière d'archéologie, on peut résoudre des énigmes 2000 ans après. Dans les anciennes affaires criminelles, c'est la même chose. Ce sont donc des technologies d'ADN qui permettent d'établir des corrélations en différents prélèvements. Moi, je vois que la justice reste déterminée pour élucider l'énigme de l'assassinat du petit Grégory.
L'ADN de parentèle, c'est de ça dont on parle, enthousiasme beaucoup moins Frédéric Bernat, l'avocat de la grand-tante de Grégory, Jacqueline Jacob, récemment et brièvement mis en examen dans l'affaire.
Dans ce dossier, c'est naufrage sur naufrage sur naufrage, c'est emballement sur suremballement sur suremballement à chaque fois qu'il se passe quelque chose. Je pense qu'il faut rester extrêmement prudent, extrêmement mesuré.
La vérité grâce à la science ou la vérité par la libération de la parole, c'est ce qu'espère le procureur général de Dijon qui disait récemment au sujet de cette affaire Grégory, il y a des gens qui savent et qui se taisent.
Arthur Mbaché, correspondant d'Europe 1 dans l'Est.
Ça y est, on connaît les dates du procès en appel de François Fillon et de son épouse Pénélope dans l'affaire des soupçons d'emploi fictif.
Le couple sera jugé en novembre prochain. En première instance, l'ancien Premier ministre avait été condamné à 5 ans de prison, dont 2 fermes.
À propos de justice, un procès en vue pour Alexandre Benalla, l'ancien chargé de mission commission de l'Élysée.
Renvoyé devant la justice pour son usage illégal de passeports diplomatiques. Et puis c'est une première, un collectif de 6 ONG lance une action de groupe contre l'État, contre les contrôles d'identité discriminatoires. Ces associations veulent dénoncer la défaillance fautive de l'État face à l'ampleur et la persistance de la pratique du contrôle au faciès.
Le tour du monde en 80 jours, et bien ça y est, nous y sommes, 80 jours en mer. C'est le sprint final dans le Vendée Globe.
Et on vous retrouve en direct des Sables d'Olonne. Corinne Boulou, bonsoir Corinne.
Bonsoir.
C'est Charlie Dalin qui devrait franchir le premier la ligne d'arrivée dans quoi ? Dans un peu plus d'une heure ?
Oui, c'est ça. Il se rapproche des côtes vendéennes là en ce moment. Il est désormais pointé à une soixantaine de kilomètres des Sables d'Olonne. Il va devoir composer jusqu'à l'arrivée quand même avec un vent mollissant. La dernière estimation le prévoit en effet sur la ligne entre 19h45 et 20h15. Derrière Louis Burton, son dauphin n'est pas annoncé avant 23h30. Boris Herman, pas avant 1h du matin. Et Yannick Bestaven est à moins de 400 km en ce moment, vers 3h du matin, lui, sur la ligne au sable. Le Rochelet, en 5e position, peut encore venir coiffer au poteau ses adversaires. Et pourquoi pas être désigné vainqueur. Rappelons qu'il bénéficie de 10h et 15 minutes de bonification pour avoir participé aux opérations de sauvetage de Kevin Escoffier. Yannick Bestaven indiquait d'ailleurs à midi au PC Course ne rien lâcher.
Je suis content de savoir que la ligne d'arrivée n'est pas loin. Après, rien n'est gagné. Voilà, je sais, tout est fragile. Je fais attention à tout. Je surveille le bateau parce que je sais que ça ne sert à pas grand-chose. Le bateau est fatigué. Nous aussi, on est fatigués à force de manœuvrer, de se faire dessus. Mais ça va. Voilà. L'adrénaline nous tient à fond et c'est pas le plus temps à vivre.
Voilà, en attendant, le couvre-feu qui vient de se mettre en place interdit évidemment tout rassemblement pour accueillir le premier navigateur. La préfecture de Vendée a quand même autorisé la présence de 300 bénévoles, feu de détresse en main, pour éclairer le passage de Charlie Dalin ce soir dans le chenal.
Merci Corinne Boulou. Et bien évidemment, dès que vous apercevez le bout du mât du bateau de Charlie Dalin, vous nous appelez. Et puis en handball, la France affronte la Hongrie ce soir en quart de finale du Mondial.
Voilà, une arrivée Anissa d'ailleurs du Vendée Globe sous la pluie.
Oui. Oui, toute la nuit il va pleuvoir sur les Sables d'Olonne.
Et alors demain, est-ce que ça se poursuit? On attend encore un temps, c'est vrai, très humide sur l'ensemble du territoire.
Le temps reste perturbé, Julien, sur la majorité des régions. Demain, seuls l'Aquitaine, l'Occitanie, la Provence, la Côte d'Azur et la Corse auront droit à un temps plus calme et ensoleillé. Dans le sud, attention, la tramontane souffle toujours demain avec des rafales jusqu'à 70 km/h. Partout ailleurs, la couverture nuageuse reste très importante avec des pluies fréquentes, notamment sur les côtes atlantiques et les côtes de la Manche, où là, nous aurons en plus de la pluie du vent, le vent d'ouest qui se lève et qui souffle jusqu'à 80 km/h. Alors prudence, puisque dans les Alpes, il neige. Depuis hier, il neige parfois fort. Nous avons 4 départements placés en vigilance orange. Les Hautes-Alpes, la Savoie, la Haute-Savoie et l'Isère, vigilance orange. Avalanche et vigilance orange, pluie, inondation dans ces régions.
Oui, avalanche aussi parce qu'il y a un petit redoux, du coup le manteau neigeux est instable.
Forte neige, redoux et pluie abondante, donc le cocktail parfait pour les avalanches. Les températures, elles sont beaucoup plus douces demain, avec 1 à 13 degrés le matin, 1 pour Belfort, 8 à Paris, 13 à Perpignan. Et alors dans l'après-midi, on va pouvoir enlever une petite couche de veste demain, puisqu'on aura 9 à 19 degrés, 9 à Annecy, 13 à Lyon et Clermont-Ferrand, 14 à Paris, 18 pour Carcassonne et 19 la maximale pour Montpellier.
Ah oui, c'est plus un redoux là, c'est carrément le printemps
avant
l'heure.
Ouais, ça grimpe bien. Ouais.
Merci Anissa, on vous retrouve tout à l'heure pour un nouveau petit point sur la météo.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.